Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui VOA Afrique, édition du jeudi 27 janvier 2022, en direct de Washington, Idrissa Sebulia
et Eric Manirakidza.
Pour commencer, les titres.
Dans quelques instants, le journal de la CAN d'Emmanuel Junta.
Une réunion virtuelle des dirigeants de la CDAO est prévue demain à la suite du coup d'état militaire au Burkina Faso.
En Guinée, le Premier ministre Mohamed Beavogui dresse un sombre tableau de la gestion économique et financière du pays.
Au Niger, démantèlement d'un réseau de trafic de migrants entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe.
Ukraine, Washington refuse par écrit une exigence clé de Moscou, mais cherche une voie diplomatique pour éviter une nouvelle guerre.
Nomination possible de la première femme noire à la Cour suprême des États-Unis pour remplacer le juge progressiste Stephen Breyer, qui, selon les médias américains, va démissionner. Voilà pour les titres, le journal maintenant.
L'Égypte et la Guinée équatoriale complètent le tableau des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Hier, les Pharaons et l'Onzalank national ont éliminé respectivement les éléphants de Côte d'Ivoire et les aigles du Mali à l'issue de la séance des tirs au but. Pour le journal de la CAN, retrouvons Emmanuel Junta Payaoundé. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Le suspense a duré jusqu'au bout lors des deux derniers matchs des huitièmes de finale disputés hier à Douala et à Limbé. Égypte, Côte d'Ivoire et Mali, Guinée équatoriale, deux matchs suivis pour nous par Ahmed Insi.
Ce sont les éléphants qui mettaient en premier le pied sur le ballon et se montraient les plus intéressants. Nicolas Pepe et Serge Aurier multipliaient les dédoublements sur le côté droit sans jamais réussir à perturber une défense égyptienne très bien en place. D'abord regroupée dans son camp, la formation égyptienne a fini petit à petit à se mettre à proposer de belles séquences avec le ballon. Dominateurs, les pharaons se procuraient les meilleures occasions face à des Ivoiriens qui semblaient manquer de justesse. Les deux équipes iront au vestiaire sur ce score nul de 0 but partout. Au retour des vestiaires, l'Égypte de Mohamed Salah continuait à dominer son adversaire et de profiter des espaces laissés par la défense ivoirienne sans pour autant ouvrir le score. Après avoir subi pendant une bonne partie de la seconde période, les Ivoiriens ont commencé à sortir la tête de l'eau avec l'entrée de Boga et de Zaha. Les Ivoiriens se sont d'ailleurs créé des occasions, mais but sur un immense Mohamed El Shanawi. Le gardien égyptien a sauvé les siens dans les dernières minutes. Très solide depuis le début de la CAN, le portier de Al Ahly était contraint de sortir sur blessure dans les arrêts de jeu. Un très gros coup dur pour les Égyptiens qui débutaient dans les prolongations sans leur gardien numéro 1. Mais le remplaçant Mohamed Gabal Ali a répondu présent sur ses interventions à la 94e et 105e minute lors des prolongations. Aucune des deux équipes n'a su prendre le dessus et la place en quart de finale s'est jouée lors de la séance de tir au but. Comme un symbole, c'est Mohamed Salah qui a offert la place pour les quarts de finale à son équipe. Pour la Côte d'Ivoire, l'histoire se répète après la finale de 2006 au Caire et le quart de finale en 98 à Ouagadougou, deux matchs perdus après la fatidique séance de tir au but. La Guinée équatoriale, pour sa part, a créé la sensation en éliminant le Mali toujours à la série de tir au but et les Équatons guinéens vont rejoindre le Sénégal. Amine Dinsi pour la VOA Afrique.
Le Mali ne jouera pas les quarts de finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Les Aigles ont été éliminés par la Guinée équatoriale au tir au but. Une confrontation qui, pourtant, jusqu'aux dernières minutes du temps réglementaire, présageait une victoire des Aigles du Mali. Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako, nous en dit plus.
La Guinée équatoriale a réussi à faire douter une équipe du Mali avant la fin du temps réglementaire. Les nombreuses occasions sans scorer en disent long. Des occasions sans être bien cadrées ont effectivement diminué sa chance. Pourtant, bien parti depuis le début d'une confrontation qui donnait favori le Mali. Un pronostic qui s'est confirmé durant la première partie et même au cours de la deuxième mi-temps, les aigles du Mali se sont montrés combatifs sans être réalistes devant les buts des Équato-Guinéens. Puisque les tirs au but font partie des règles du jeu, les Équato-Guinéens semblaient bien préparés à cette autre éventualité. Après les prolongations, la chance a finalement souri à la Guinée équatoriale. Score final 5 tirs à 6. Le Mali plie ainsi bagage au 8e de finale de la CAN Cameroun 2021 avec un goût d'inachevé. Parce que bon nombre de supporters attendaient ce derby Sénégal-Mali en quart de finale qui n'aura finalement pas lieu. C'est plutôt Sénégal-Guinée équatoriale. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
La commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF a décidé hier de délocaliser au stade Amadou Ahidjo deux matchs de quart de finale qui devaient se disputer au stade d'Olembe à Yaoundé et de Japuma à Douala. Le stade d'Olembe a été sanctionné à titre conservatoire suite à la bousculade mortelle qui s'est produite lundi dernier à l'une des entrées de cette enceinte. Quant au stade de Japuma, son aire de jeu s'est dégradée au fil des matchs. Pour cela, la demi-finale qui devait se jouer sur cette installation a elle aussi été délocalisée au stade Amadou Ahidjo. Voici les combinaisons complètes des quarts de finale qui débutent ce samedi. Gambie, Cameroun et Burkina Faso, Tunisie. Dimanche, derby d'Afrique du Nord entre l'Égypte et le Maroc, suivi de Sénégal, Guinée équatoriale. Le journal de la CAN s'achève. Amédine Sy, Siaka Traoré, Emmanuel Junta. VOA.
Merci Emmanuel. Dans le reste de l'actualité, la CEDEAO se réunit demain en sommet virtuel sur le Burkina Faso après le coup d'état militaire qui a renversé le président Roch Marc Christian Kabore. Le point avec Abdourahmane Dia.
Ce sommet virtuel aura lieu après que l'organisation régionale a condamné lundi la prise de pouvoir des officiers de l'armée. Ils ont arrêté le président Kabore sur fond de colère croissante au sein de la population, l'accusant d'être incapable de faire face aux attaques djihadistes. Depuis l'année dernière, M. Kabore était confronté à une vague de mécontentement dans ce pays miné par d'incessantes attaques djihadistes qui ont fait près de 2000 morts et déplacé au moins 1,5 million de personnes. Dimanche, des mutineries ont éclaté dans plusieurs casernes du pays au lendemain de la dispersion par la police de manifestations interdites. Cette réunion des leaders de la région se tient alors qu'un bras de fer entre la CEDEAO et le Mali se poursuit. Bamako fait l'objet de sanctions régionales sévères au sujet de la durée de la transition. En moins de 18 mois, les gouvernements de trois pays des 15 membres de la CEDEAO, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, ont été renversés par un putsch militaire.
Les pays européens engagés au Mali au sein du groupement de forces spéciales Takuba demandent à la junte malienne de respecter ce qu'ils ont appelé, dans un communiqué conjoint, les bases solides de la coopération diplomatique et opérationnelle. Bamako a réitéré dans la nuit de mercredi à jeudi avec insistance son exigence de départ immédiat d'une centaine de soldats danois tout juste arrivés au Mali, soutenant que ce déploiement est intervenu sans son consentement.
Et les Européens de Takuba disent regretter profondément une telle déclaration. La France a engagé une concertation approfondie avec ses partenaires européens participant à Takuba, avait indiqué mardi la ministre française des Armées, Florence Parly, en soulignant que la junte multiplie les provocations.
En Guinée, le Premier ministre Mohamed Béavougui a dressé mercredi un sombre tableau de la gestion du pays près de 5 mois après le renversement du président Alpha Condé par des militaires. Mohamedou Oumfa nous en dit plus.
Dans un entretien accordé à la télévision publique et diffusé mercredi, M. Béavougui a accusé l'ex-régime de n'avoir pas reversé au trésor public des recettes de bauxite. Selon le FMI, la Guinée en 2020 a sorti l'équivalent de 3,8 milliards de dollars de bauxite vendus, mais ce qui est rentré dans les caisses de l'État fait à peine 200 millions de dollars, a-t-il déploré. Entre le 5 septembre, date du coup d'État, et fin octobre, la masse salariale de la Guinée a augmenté. Le nombre de fonctionnaires a augmenté de 4500 agents à peu près en un mois, alors qu'officiellement on n'avait recruté personne, a-t-il dit sans plus de détails. Selon le chef de gouvernement nommé le 6 octobre dernier par la junte, Pour redresser cette situation, il faut une amélioration de la gestion dans la transparence. Il faut mettre en place les moyens pour amener les ressources du pays où elles doivent être. Aujourd'hui, croyez-moi, les tuyaux qui conduisent les ressources de la fiscalité vers le trésor sont percés de tous les côtés, a-t-il ajouté, en allusion à des pertes énormes des recettes par l'État.
Une vingtaine de membres d'un réseau de trafic de migrants ouest-africains transitant par le Niger vers l'Europe ont été interpellés dans le cadre d'une enquête conjointe des polices nigériennes, françaises et espagnoles. Selon un communiqué de la police nigérienne, ces interpellations ont eu lieu à Niamey et à Maradi et une multitude d'objets et de faux documents ont été saisis. Le réseau opère entre la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, le Togo, le Niger et l'Europe.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont refusé hier d'exclure une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, comme le demande la Russie, mais ils ont offert une voie diplomatique pour sortir de la crise dans leur réponse écrite aux demandes de Moscou. Les précisions avec Jacques Aristide.
Le document remis à Moscou hier offre une voie diplomatique sérieuse si la Russie le souhaite, a déclaré le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, se disant prêt à parler à son homologue russe Sergueï Lavrov dans les prochains jours. Nous avons clairement fait savoir que nous étions déterminés à maintenir et défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine et le droit des États à choisir leurs propres dispositions de sécurité et leurs alliances, a ajouté le secrétaire d'État américain. Anthony Blinken a noté que la réponse américaine ne serait pas rendue publique parce que, dit-il, la diplomatie a de meilleures chances de réussir. Il en a toutefois divulgué quelques points, dont le principe défendu par les États-Unis de la porte ouverte à l'OTAN. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que John Sullivan, ambassadeur américain à Moscou, a remis la réponse écrite de l'administration américaine au vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Grouchko, au moment de la remise de ce document, une réunion entre négociateurs russes, ukrainiens, français et allemands était en cours à Paris pour tenter de trouver une solution diplomatique à cette crise.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré à son homologue chinois qu'une agression de la Russie contre l'Ukraine menacerait la sécurité et l'économie mondiale, a déclaré mercredi le département d'État. De son côté, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a défendu jeudi ce qu'il a appelé des préoccupations raisonnables de la Russie pour sa sécurité. Il a aussi exhorté les États-Unis à cesser de perturber les yeux d'hiver de Pékin.
Ici aux États-Unis, le juge progressiste Stephen Breyer va quitter ses fonctions à la Cour suprême avant les élections de mi-mandat. Cela va offrir la possibilité au président Joe Biden de nommer son successeur au sein de la puissante institution. Probablement une femme noire, la première de l'histoire de la Cour suprême, selon une promesse électorale de M. Biden. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le magistrat Stephen Breyer, qui occupe ce poste depuis près de 28 ans, a l'intention de se retirer à la fin de la session en cours qui se termine le 30 juillet. Il devait annoncer sa décision à la Maison-Blanche d'ici peu, ont rapporté plusieurs médias américains. La porte-parole de la présidence, Jen Psaki, a assuré dans un tweet ne pas avoir de détails ou d'informations. Le chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer, s'est dit prêt à organiser rapidement une audience de confirmation pour son successeur. Stephen Breyer, 83 ans, est depuis des mois sous une pression. Plusieurs voix à gauche l'appelant à démissionner avant le scrutin de novembre, lors duquel les démocrates risquent de perdre le contrôle du Sénat. Les républicains ne cachent pas qu'ils pourraient bloquer un candidat choisi par Joe Biden s'ils reprennent la majorité au Sénat. Ils l'ont fait en 2018 quand Barack Obama a tenté de pourvoir un poste ouvert par le décès d'un des magistrats. Si le départ de M. Breyer se confirme, une femme noire devrait, pour la première fois dans l'histoire, faire son entrée au temple du droit américain.
La porte-parole présidentielle Jen Psaki a réaffirmé cette promesse électorale de M. Biden. D'autre part, le président américain se rendra jeudi 3 février à New York pour évoquer, aux côtés du nouveau maire de la ville, l'ancien policier Eric Adams, un sujet sur lequel il ne s'est pas beaucoup exprimé depuis le début de son mandat, la criminalité et la violence par arme à feu.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebouya. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le Burkina Faso, où lundi, un groupe de militaires a renversé le président Roch Kabore. La junte regroupée au sein du MPSR, le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, est dirigée par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Que sait-on de ce soldat? De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Très peu d'informations sur le nouvel homme fort du pays. Ce qu'on sait, c'est que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, 41 ans, jusqu'à sa prise du pouvoir, était le commandant de la 3e région militaire. Une nomination faite par Roch Kabore lui-même en décembre dernier après le drame d'Inata au Sahel. Il est de la promotion 92 du Pritané militaire du Kadiogo et de la 7e promotion de l'Académie militaire Georges Namwano, basée à Pau. Cet officier supérieur d'infanterie des forces armées burkinabè est diplômé de l'école militaire de Paris. Il est aussi titulaire d'un Master 2 en sciences criminelles du CENAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris. Le lieutenant-colonel Damiba est un ancien élément de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Il quittera cette garde prétorienne de Blaise Compaoré après les mutineries de 2011. Selon les informations de VOA, il a été commandant de compagnie à ce régiment de 2003 jusqu'en 2011. Il a, entre autres, servi à l'intérieur du pays, notamment comme chef de corps du 11e RIC, le régiment d'infanterie commando à Dori au Sahel de 2016 à 2018. Il a également commandé de 2018 à 2019 le 12e RIC à Waiguya, au nord. Paul-Henri Damiba a été chef de corps du 30e régiment de commandement d'appui et de soutien en 2019, un régiment basé au camp général Babassi. Selon une source proche du nouvel homme fort, il a été le chef de la cellule renseignement du secteur à la MINUSMA en 2020. Militaire compétent et très appliqué, il aime son travail, il l'a démontré à plusieurs reprises, ajoute ce gradé de l'armée qui a requis l'anonymat. Il est humain. En témoigne sa rencontre ce mercredi avec les membres du dernier gouvernement de Roch Kabore. Si c'est sous d'autres cieux, il les aurait mis aux arrêts, a confié ce proche du nouvel homme fort. Le lieutenant-colonel Damiba est auteur de l'essai littéraire de 160 pages publié en juin 2021, intitulé « Armée ouest-africaine et terrorisme, réponse incertaine ». Pour autant, saura-t-il apporter les meilleures réponses à la crise sécuritaire qui frappe le pays depuis 7 ans? Seul l'avenir le dira. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Merci Lamine. Ajoutons que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a commencé des concertations avec certaines couches de la société. En prenant le pouvoir lundi, sa junte a renversé le régime du président Roch Kabore qui avait interdit pendant le week-end des manifestations appelant à sa démission. Parmi les manifestants qui ont bravé l'interdiction, Anaïs Drabeau, secrétaire à la formation idéologique du mouvement Sauvons le Burkina. Elle avait été arrêtée pendant le week-end, puis relâchée. Jointe à Ouagadougou par Yacouba Ouédraogo, Anaïs Drabeau.
C'est une mission un peu accomplie parce que c'est la première étape, hein, parce que le pays était en lambeau et la population était meurtrie. Il fallait s'affacher, ne reste qu'au Ouagadougou, Bobo, Burkina. Juste une petite parcelle qui reste. Et si nous, citoyens lambda, on ne se lève pas pour se battre pour cette petite parcelle qui reste qu'au Burkina, et qu'allons-nous léguer à nos enfants? Donc, c'était un devoir pour nous de sortir et de demander la démission du président Roch Kabore parce qu'il a montré ses limites. Il a changé plusieurs ministres, plusieurs premiers ministres, et il a tout changé. Donc, le problème, c'était lui-même.
Il a quand même été élu par le peuple burkinabé à la suite de l'élection présidentielle, mandat renouvelé. Est-ce que vous pensez que vous êtes plus représentatif que ceux qui sont derrière le pouvoir?
Il a été élu par un peuple. Il a juré de sécuriser ce peuple. Il est le père de la nation. Il n'avait pas le droit de laisser mourir son peuple. Il n'avait pas le droit de laisser chasser son peuple. Comme nous sommes à 2 millions de déplacés internes. Pensez-vous que nous allons rester là tout simplement parce qu'il a été élu démocratiquement? Vous parlez de démocratie. Est-ce qu'en démocratie, on emprisonne des gens de façon illégale? Est-ce qu'en démocratie, on coupe l'Internet? C'est un droit pour nous d'être informés. Moi, je ne parle plus de démocratie parce que ça a commencé par eux. C'est un droit pour le peuple, pour un citoyen lambda de sortir, interpeller le père de la nation. Et si nos droits sont bafoués, mais nous allons rentrer dans l'illégalité. On nous interdit de marcher. On nous envoie de ces trucs abracadabra. Mais on ne comprend plus rien.
Et justement, à quel moment vous vous dites, ça suffit, il faut qu'on demande le départ du président du pouvoir?
C'est Inata, le 14 novembre 2021, qui a été la goutte d'eau de trop. Si ceux qui sont chargés de sécuriser le peuple, et si ces personnes même sont oubliées, ces personnes sont affamées, envoyées à l'abattoir, ce que les gens ne disent pas, ils ont été décapités, démembrés, c'est ce que la population ne sait pas. Et vous voulez que nous, on fasse comment si le bas peuple ne se lève pas de lui-même pour réclamer le départ de son président médiocre? C'est lui le garant de tout. Et si une institution ne va pas bien, il doit être à mesure de prendre des mesures fortes contre l'institution. Mais il ne l'a pas fait. Il a fallu que nous, on sorte le 27 novembre encore pour demander sa démission avant qu'il ne change. Franchement, monsieur, je suis dépité. Je suis découragée. Et il n'a pas écouté le bas peuple. Et le bas peuple s'est levé et prend son destin en main.
Maintenant, les militaires ont fait leur coup d'État. Ils ont fait partir le président. Qu'est-ce que vous attendez d'eux?
Moi, je ne parlerai pas de coup d'État. Moi, je parle de libération. Ils ont pris leurs responsabilités parce que c'est eux qui étaient envoyés à l'abattoir par manque de moyens. Mais maintenant, 2014, il y a eu ce même scénario pareil. Un soulèvement populaire et la population était trahie. Il ne faut pas que 2014 se répète. Nous ne voulons pas vivre 2014. Donc s'ils sont sortis pour le bas peuple, qu'ils travaillent pour ce bas peuple. Nous voulons la paix, nous voulons la sécurité. Moi je veux vivre, je veux repartir dans mon village qui est occupé actuellement par les terroristes. Je veux montrer chez moi la terre de mes ancêtres à mes enfants. Donc nous avons l'œil sur eux. Et si cette même jeune est sortie, libérer le peuple, cette jeune ne travaille pas pour ce peuple, elle va nous rencontrer dans la rue encore.
Anaïs Drabo, militante du mouvement Sauvons le Burkina, jointe à Ouagadougou. Notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa, a recueilli à Niamey, la capitale, des réactions de citoyens à la prise de pouvoir des militaires du MPSR au Burkina Faso.
Au sein de l'opinion nigérienne, beaucoup affirment n'avoir pas été surpris par ce qui est arrivé au régime du président burkinabé Roch Marc Christian Kabore.
Le président Roch Marc Christian Kabore, il marchait sur des œufs. Vous savez que depuis quelques mois, l'armée burkinabé est à la peine dans la lutte contre le terrorisme, simplement parce qu'il y a une corruption qui s'est installée autour de l'achat du matériel militaire et des infrastructures du même nom. De sorte que le président Kabore, il a auparavant limogé son ministre de la Défense, mais il a décidé aussi de réaménager la hiérarchie militaire. Cela n'a pas suffi. L'armée burkinabé a continué à perdre des hommes.
Tous ceux qui suivent l'évolution de la scène politique burkinabé, c'est que Roch Christian Kabore tombera. Il faut vous attendre aussi dans les prochains jours ou mois d'autres interruptions aussi des militaires dans certains pays africains. Et surtout les présidents des pays africains que les citoyens soupçonnent d'être les valets locaux des impérialistes.
Commentant ces interruptions de régime civil par des militaires dans la sous-région ouest-africaine, l'analyste Jibril Seydou soutient qu'il y a un malaise profond de gestion qu'il faut guérir dans tous ces pays.
Ce putsch, qu'on soit au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, pour ne citer que ces cas-là, sont l'expression dans une certaine mesure, des malaises dans la gouvernance. Donc au lieu de s'attarder à crier contre les coups d'État, après coup, il faudra mettre toute l'énergie pour leur barrer la route en travaillant à asseoir une gouvernance juste, équitable, démocratique et sensible aux libertés. Donc pour bâtir leur résilience et mieux combattre le terrorisme, pour prendre leur rampe de développement économique, social, etc., les États du Sahel ont besoin de démocratie. Pas d'incursion illégale sur la scène politique. Ils ont besoin d'un système de gouvernance qui redistribue les ressources de manière plus juste, qui fournit la justice sociale, qui facilite la libre expression des libertés et qui garantit la paix et la quiétude sociale. Donc pour ce faire, les élites politiques, à mon avis, les élites politiques nationales doivent être très sensibles aux aspirations de leur population, surtout de leur jeunesse, remettre sur la table certains accords jugés léonins avec certains partenaires extra-africains et se montrer davantage affranchis d'une certaine tutelle extérieure.
Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Abdourahman Tia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, bruit de bottes à Ouagadougou. Des soldats se sont mutinés au cours du week-end, demandant le départ des chefs de l'armée et des moyens adaptés à la lutte contre les djihadistes. Une nouvelle incursion des militaires dans le champ politique sous-régional qui inquiète la communauté internationale. Qu'est-ce qui explique ce nouveau coup de colère des militaires au Burkina Faso? Doit-on s'attendre à une plus grande présence des militaires dans le champ politique régional? La persistance des attaques djihadistes risque-t-elle de fragiliser davantage les systèmes politiques dans le Sahel? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Les technologies d'assistance virtuelle activées par la voix telles que Siri et Alexa sont de plus en plus courantes dans le monde, mais en Afrique, avec ses nombreuses langues, la plupart des habitants sont délaissés pour compte sur le plan numérique. Pour résoudre le problème, certains chercheurs africains créent des outils de traduction pour reconnaître et promouvoir les langues nationales comme le Yoruba. Reportage de Timothy Obiezu à Abuja et récit de Jacques Aristide.
Oluwafemi Awosaniya enseigne le Yoruba. Il a du mal à mettre ses cours en ligne pour ses étudiants. Il dit passer des heures à rédiger manuellement ses papiers avant de les télécharger sur son blog, car il n'y a pas de technologie de reconnaissance vocale pour le Yoruba.
Yoruba language is a language that has to do with signs.
Le Yoruba est une langue dont l'alphabet comprend des accents pour indiquer les tons. Je dois donc faire un effort supplémentaire. Lorsque j'écris mes notes, je dois d'abord utiliser Microsoft Word, et même là, les mots ne sont pas reconnus.
Awosaniya enseigne depuis 10 ans cette langue, très utilisée au Nigeria. Il affirme que malgré les avancées technologiques, les langues africaines sont toujours négligées.
Cela limite les connaissances. Il y a des choses que vous souhaiteriez enseigner aux enfants, des choses que vous voudriez exposer en classe, mais le matériel est limité.
Il existe plus de 2000 langues parlées en Afrique. Mais d'après des chercheurs, les 2/3 de ces langues ne sont pas incluses dans les nouvelles technologies, ce qui met en péril les langues locales du continent. L'écrivain nigérian Kola Tobusson tente de résoudre le problème en créant un dictionnaire Yoruba en ligne, de même qu'un moteur de synthèse vocale qui traduit l'anglais en Yoruba.
If a language doesn't exist in technology space,
langue n'existe pas dans l'espace technologique, c'est comme si elle n'existait pas du tout. C'est ainsi que le monde est structuré aujourd'hui. Les langues que vous rencontrez en ligne sont notamment l'anglais, l'espagnol ou le mandarin. Cela est susceptible de définir la façon dont vous interagissez avec le monde. Au fil du temps, vous pouvez perdre soit l'intérêt pour votre propre langue, soit sa compréhension.
Tobusson est d'avis que les géants de la technologie commencent à y prêter attention, mais l'écart, dit-il, demeure monumental.
Il y a beaucoup d'obstacles. Certaines langues ne sont pas écrites du tout, d'autres ne sont pas autant utilisées dans l'enseignement ou dans les conversations quotidiennes.
Pour
Pour des linguistes, il faudra encore du temps pour intégrer les langues africaines dans la technologie moderne.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sebudia et Eric Manirakiza. À la mise en onde, Lionel Gahima. À la console, Kevin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.